sur Radio Campus Tours. Bienvenue si vous nous rejoignez, vous écoutez La Méridienne. Et aujourd'hui avec moi en studio, deux invités. Bonjour Anne Champigny.
Bonjour Mélissa.
Bonjour Marie-Luce Thomas.
Bonjour Mélissa.
Alors mesdames, j'ai le grand plaisir de vous recevoir sur Radio Campus Tours pour parler d'art, pour parler de food art, puisqu'il y a en ce moment même une exposition à la galerie Lieu Commun. Alors quel est son nom à cette exposition?
Alors l'exposition Food Art, c'est la continuité d'un projet qui a commencé il y a 6 ans. Autour d'une exposition au mois de décembre où on voulait créer un créneau qui n'existait pas encore à Tours, à savoir une exposition collective, il s'en fait beaucoup, mais sur ce lien entre l'expression visuelle, les arts plastiques, etc., et les liens qui s'entretiennent avec les plaisirs de la table, de la dégustation, de la nourriture. Donc food art, voilà, c'est ça. Et food art, c'est aussi food art, c'est aussi notre raison de vivre.
Voilà, alors peut-être qu'on peut préciser aussi association galerie lieu commun. Alors c'est une galerie qui est proposée par une association. Est-ce que vous voulez revenir un peu sur la genèse de ce projet, d'où elle sort cette galerie, cette association?
Alors cette association qui s'appelle Lieu Commun, elle a 6 ans d'existence. Avant, le lieu était d'abord l'atelier d'une artiste et qui est devenu en 2014 une association qui porte le même nom. Et cette association, elle s'est créée sur l'idée et le désir de se placer sur un créneau. Alors ça peut paraître un tout petit peu prétentieux, mais bon, proposer un lieu qui n'existerait pas encore et qui permettrait des projets à la fois de montrer et de diffuser l'art, la création artistique, mais aussi d'ouvrir à des personnes, à des artistes, à des démarches artistiques, à des démarches de culture ou de rencontres ouvertes, et en particulier à des gens qui n'ont pas forcément ou qui ne trouvent pas forcément la possibilité de se montrer ou de s'exprimer, parce que bien sûr lieu d'exposition, art visuel, art plastique, etc., mais on aura peut-être l'occasion d'en parler aussi, des temps d'échange autour de l'écriture, de la poésie et de la culture scientifique, qui est un projet pour 2020.
Est-ce que vous voulez préciser, en fait, parce que vous l'avez dit, proposer un lieu d'exposition à des gens qui peut-être terminent leur cycle d'études d'art ou alors sont des autodidactes, mais en tout cas n'ont pas forcément accès à des lieux d'exposition plus connus. Alors comment vous les rencontrez, ces gens-là? Comment vous les sollicitez? Est-ce qu'ils viennent spontanément vers vous? Qui sont-ils?
Eh bien, certaines personnes, évidemment, on part pas avec zéro réseau, donc ça s'est fait d'abord les premiers pas à partir de personnes qu'on connaissait, qui étaient soit dans leur métier, soit justement dans les relations qu'ils avaient en lien avec des étudiants qui sortaient d'études des beaux-arts, soit des artistes aussi qui venaient pour la première fois voir une exposition, une des premières expositions, et qui avait déjà une démarche, peut-être la première envie d'exposer, et qui se sont sentis dans un lieu commun. C'est quand même 23 mètres carrés de possibilité de montrer des choses, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà c'est un lieu qui permet malgré tout de mettre en place des projets intéressants. Et je crois que le lieu, puisque c'était un lieu qui se créait, qui n'avait pas déjà une marque de fabrique qui permettait à des gens d'oser se lancer, d'oser dire « moi j'exposerai bien chez vous ». Nous avons eu aussi très souvent des groupes, et nous avons travaillé aussi avec des associations humanitaires, enfin qui, ou des jeunes, par exemple de l'IUT, qui avaient dans leurs études la nécessité de mettre en place un projet, qui cherchaient un lieu pour le mettre en place, je pense à de la photographie, et qui ont trouvé à lieu commun une écoute ou une possibilité de monter le projet.
Il y a aussi une idée peut-être de reconnaissance par les pairs, alors, parce que est-ce que c'est un collectif d'artistes qui est à l'origine de lieux communs?
Alors, à l'origine de lieux communs, il y avait d'abord trois personnes, mais trois personnes qui très vite, voilà, par leur réseau et puis par leur passé aussi professionnel et puis de passion personnelle, ont effectivement pu permettre ces rencontres.
Et alors sur l'idée aussi de à lieu commun, on peut exposer même si on n'a pas le grand prix de quelque chose ou un
voilà.
diplôme d'art. Ça, c'est aussi peut-être très valorisant pour des artistes jeunes ou moins jeunes d'ailleurs. Mais
Oui, parce que jeune artiste, ça peut être quelqu'un qui est au début d'une démarche, qui est jeune parce qu'il est jeune par son état civil ou qui vient de terminer des études. Mais ça peut être jeune parce que sa démarche est récente. Elle est d'abord personnelle, individuelle dans son coin. Et puis, c'est la première fois où il va oser montrer quelque chose au public, et ça c'est arrivé plusieurs fois, et des gens qui avaient une autre expérience professionnelle. Et ce qu'on a toujours trouvé intéressant, c'est que là, je pense à un artiste en particulier et puis à d'autres, la première exposition qui a eu lieu à lieu commun, elle a permis de faire venir des gens qui connaissaient, de rencontrer les visiteurs de lieu commun, mais aussi par la suite d'oser se exposer dans d'autres lieux ou dans d'autres structures collectives. Ça, c'est déjà arrivé. C'est-à-dire, la première exposition de lieu commun a été le tremplin pour deux ou trois personnes pour montrer ailleurs, pour continuer à travailler et puis participer à d'autres projets avec d'autres.
Est-ce que vous êtes... Oui, Marie-Luce Thomas, vous voulez dire quelque chose?
Non, non, j'acquiesce tout à fait à ces propos qui sont clairs et voilà.
Alors, si peut-être une, vous avez dit art visuel, art plastique, bien sûr, 6 années d'exposition à lieu commun. Est-ce que vous voulez revenir peut-être sur quelques expériences, sur quelques expositions qui ont été particulièrement marquantes, peut-être pour le lieu, non pas que certaines ne l'étaient pas, mais.
Mais elles ont, allez, on va dire, parce qu'on ne peut pas dire autrement, et puis c'est la réalité, que les expositions ont toutes leur personnalité, leur individualité. Mais ce qu'on va dire aussi, c'est parce que ça, c'est vraiment la dimension associative. Je reviendrai sur des, peut-être plutôt des projets collectifs, c'est-à-dire c'est une galerie. Je prends l'exemple de la vidéo. La vidéo, c'est d'ailleurs c'est pas évident de montrer l'art de la création vidéo. C'est pas les films, c'est pas le cinéma. Et donc nous depuis 6 ans, on a un rendez-vous qui s'appelle Regard Vidéo. Et Regard Vidéo, on crée une installation avec effectivement pour montrer de l'image. C'est 2 jours en continu où justement cette création peut se voir. À la fois se montrer, bien sûr, et puis se voir pour le public. Et comme les créateurs, les vidéastes, les artistes sont là, c'est toujours des moments très importants d'échange entre des gens qui ont une expérience et une pratique importante de l'image, et puis des différents réseaux de l'image, et puis des gens qui ont créé, parce que aussi les moyens numériques le permettent, des vidéos, et puis le monde. Donc c'est à la fois toujours des échanges entre différents niveaux d'expérience et d'expérimentation, on va dire, et puis effectivement les créateurs entre eux, mais aussi le public. Et ça, c'est un moment, c'est un rendez-vous qui marche bien, parce que d'année en année, il y a une fidélité, ce qu'on remarque, une fidélité, et puis des gens nouveaux qui viennent. Et ça, c'est quelque chose qui est satisfaisant quand on a un projet. On a fait aussi des projets avec des jeunes étudiantes de l'IUT qui avaient un projet avec une photographe et avec l'association Les Petits Frères des Pauvres. Et Marie Landreau montrait des photos assez exceptionnelles. Les étudiantes ont mené leur projet jusqu'au bout, c'est-à-dire le moment, le contact avec l'association, la rencontre avec la photographe, suivre le travail de la photographe et l'aboutissement, pouvoir montrer les photos pour les murs et inviter les différents résidents ou les différentes personnes dont Marie Landreau avait fait le portrait à venir aussi avec nous. Donc ça, c'est des moments forts. Les moments Petite Bouchée aussi sont des moments forts. On participe au Printemps des Poètes avec une exposition collective. Il y a toujours un moment où de lecture ou de parole ou de dire de la poésie avec à la fois des acteurs, des gens qui écrivent de la poésie et puis des choses qui sont sur les murs. Voilà, j'ai souvenir aussi d'une exposition Petite Bouchée où on n'a pas retrouvé la copie vidéo d'un film qui était Super 8, c'était une transcription vidéo d'un film Super 8 qui s'appelait Cuisine. Eh bien, on a sorti un écran dans la rue Étienne Marcel, par chance elle est piétonne. On a mis un projecteur Super 8 sur un escabeau et on a projeté le film dans la rue. Voilà. Et il y avait du monde, il y avait des gens qui passaient entre l'écran et petit à petit c'est agrégé dans le froid.
Je crois que c'est ça qui est très bien dans l'action, les actions de lieu commun, c'est qu'en fait, bon, ce sont on part de quelque chose de simple, sympathique, etc., à quelques personnes, et puis ça diffuse, et ça diffuse même au sein du lieu que l'on occupe, c'est-à-dire les rues, etc. Voilà, et les gens commencent à être effectivement très marqués par ce genre de choses, quoi.
Mais est-ce que ça tient aussi au fait que Lieu commun, c'est une association et pas un lieu institutionnel ? Du coup, c'est peut-être un rapport qui est différent au public.
Oui, là, je crois que vous mettez l'accent sur quelque chose qui est vraiment important, c'est-à-dire qu'on tient beaucoup à ce côté associatif, où différentes personnalités s'agrègent et apportent ce qu'ils ont à apporter, parce qu'elle est composée à la fois d'artistes et des gens qui ne le sont pas, de passionnés, de choses qui se passent, gens qui ont un peu les antennes à l'écoute de ce qui se passe autour d'eux, et puis qui ont envie, parce que c'est simple, d'apporter leurs expériences ou qui osent passer la porte ou décrocher le téléphone et dire est-ce qu'il y aurait un créneau, est-ce que nous on pourrait, on est intéressé par le lieu. Ça, c'est effectivement ce que vous dites. L'énergie que permet la vie associative et non institutionnelle laisse cette possibilité. C'est à la fois le fait de ne pas être institutionnel, de ne pas recevoir de subventions. Nous sommes une association qui ne reçoit pas de subventions. La contrepartie, c'est qu'on a une immense liberté.
Mais aussi, est-ce qu'on peut dire que vous êtes à but non lucratif ? Parce que certes, les œuvres exposées, certaines, sont proposées à la vente, mais je ne crois pas que c'est le but premier du lieu.
Voilà. Effectivement, c'est une association à but non lucratif, mais nous avons le loyer qui est modeste, mais nous avons le loyer du lieu. Nous avons besoin, puisque c'est très important pour nous. On est association, on accompagne les artistes, c'est-à-dire qu'on va faire un mailing pour les invitations, on va créer un visuel, donc on va l'imprimer, organiser une diffusion de qualité, ça veut dire qu'on accompagne aussi financièrement les projets et les artistes, donc ça veut dire qu'on a les ventes, le pourcentage qui est fait sur les ventes qui se font à la galerie est une nécessité pour l'association de vivre. Voilà, et ce qu'elle permet aussi, c'est pour les artistes, on tient à dire que les artistes plasticiens, la reconnaissance du travail aussi, c'est aussi de pouvoir vendre leur travail et de dire, mais voilà, ils vivent de leur travail. Moi, je pense à ce macaron acheté aux artistes quand ils sont vivants. Après, ça ne leur servira pas et c'est beaucoup plus cher. Donc, on joue aussi cet intermédiaire-là. Hein, le mot médiation, il est aussi important.
Et alors, vous parlez d'accompagnement de projets, donc sur les artistes dont on parlait tout à l'heure, jeunes, non pas par rapport seulement à leur âge, mais disons dans leur pratique artistique. Est-ce que vous pouvez aussi parfois être de bons conseils pour faire mûrir ou avancer certains projets ?
C'est assez difficile, effectivement. On peut donner quelques indications, enfin, c'est même pas des indications. On peut parler de métier, on peut parler aussi de ce que l'on ressent par rapport à ce qui est proposé, puis leur dire, leur faire quelques réflexions, etc., mais qui ne sont pas des façons de faire obligatoires, si je puis dire, qui sont plutôt des étincelles qui pourraient faire rebondir, des noms qui pourraient faire progresser dans une direction plutôt qu'une autre, etc. Enfin, on essaye de ressentir effectivement un petit peu quel est le sens du travail présenté et puis de faire progresser dans cette veine-là, précisément.
Et pour rebondir, pour continuer un tout petit peu ce que tu dis, c'est que le fait aussi que dans notre lieu, il y a des rencontres entre les gens qui ont l'expérience de l'exposition et des gens qui débutent, il se crée cette qualité d'échange, cette qualité d'échange d'expérience à laquelle on tient.
Oui, je pense aux personnes qui seraient autodidactes et en fait d'être exposées déjà dans un lieu comme celui-là, parce que je vois pas trop où, à moins d'être reconnus universellement, ils pourraient exposer, mais aussi parce qu'ils n'ont pas forcément une formation dans le domaine des arts, donc d'avoir aussi un regard critique au sens de faire l'idée de faire avancer les choses, d'avoir ce regard sur leur travail, mais c'est précieux en fait. Donc,
De toute façon, ils sont confrontés à d'autres œuvres dans la galerie, et ces autres œuvres ont une personnalité complètement forte, différente, etc. Donc, à force de frottement de ce genre, on finit toujours par réorienter son travail ou légèrement le changer un petit peu. Enfin, voilà, progresser.
Et ça peut être aussi, c'est un échange qui se fait dans les deux sens. C'est-à-dire, ça peut être aussi, ça peut apporter des souffles de liberté.
Absolument.
Et puis les jeunes, les gens qui débutent peuvent apporter aussi leur souffle nouveau, leur regard, leur regard neuf, leur façon de montrer leur liberté aussi. Voilà, ça peut être ça à certains moments, de se rendre compte que tiens, on est peut-être enfermé dans une façon de présenter. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin? Est-ce que pour ça j'ai forcément besoin de mettre un cadre? Est-ce que ça peut pas être exposé de façon plus libre sur le mur? C'est des échanges qui se font dans les deux sens.
Mais ça c'est peut-être justement parce que ces personnes-là n'ont pas le cadre, justement. Elles n'ont pas intégré certains codes puisqu'elles n'ont pas exposé d'ailleurs. C'est pas?
Oui. Oui. Je pense que c'est très juste. Et en même temps, il peut y avoir les deux faces de cet aspect-là. C'est-à-dire que quand on n'a pas forcément de cadre et de code, on cherche quand même à se rassurer ou à se donner pour démarrer quelque chose qu'on connaît. On s'appuie sur quelque chose qu'on connaît, alors que voilà, ça peut être ça aussi. C'est toujours intéressant de ça permet de franchir un pas quoi à tout le monde.
Mais ça doit questionner aussi la question du beau et du réussi.
Ah ben voilà.
Ouais. Alors là, est-ce que
c'est compliqué cette question-là. Hein. Qu'est-ce qu'on veut faire? Comment on veut le faire? Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est réussi? C'est réussi par rapport à quoi? Est-ce que c'est par rapport à la démarche que je me donne, aux règles du jeu que je m'instaure, etc.? Est-ce que je réussis à aller jusqu'au bout d'une certaine façon de présenter quelque chose, etc.? Bon, la beauté, c'est très relatif. Je veux dire, on peut. Moi, je parlerais plutôt d'être sincère, de sincérité dans son action artistique et une recherche aussi de force en permanence. C'est-à-dire que ne pas s'arrêter justement à ce qui pourrait être plaisant, joli ou beau, justement, mais essayer de faire passer à travers ce qu'on fait une idée plus. Qui pourrait faire changer des choses ou qui pourrait apporter dans sa propre pratique. Une marche supplémentaire, enfin, c'est une question assez difficile qu'on a brassée et rebrassée, et voilà.
Et cette question, justement, elle est venue souvent ces trois jours-là, depuis qu'on est ouvert sur Food Art, parce que c'est vraiment la question que vous venez de poser, c'est-à-dire entre le beau, le réussi, le fini, et le surprenant, le déroutant. Mais quelqu'un, il s'est arrivé hier encore. Ah oui, mais en quoi ce que je vois là, je pas précisé, mais c'était c'est artistique par rapport à une photo qui est encadrée, où on va trouver un code, où on va retrouver des couleurs qui nous satisfont. Mais là, c'est beaucoup des discussions entre cette idée, arriver à peut-être à dissocier ou faire deux questions différentes de ce que de l'esthétique. Et de l'artistique, c'est pas forcément la même chose, quoi. Hein?
Mais est-ce que le beau, finalement, n'est pas du côté du consensuel? Est-ce que une fois que si c'est beau, c'est parce que on s'accorde au plus grand nombre à trouver que c'est beau? Alors finalement, est-ce que c'est encore de l'art si c'est beau? Enfin, je sais pas. Je...
Moi, j'ai des difficultés avec ce terme, hein, très réellement. Donc, j'emploie jamais c'est beau. J'emploie jamais c'est beau. Je suis très attentive à la façon dont c'est, à la construction de ce qui m'est présenté. Je suis très attentive à la façon dont, alors ça peut me toucher, mais ça c'est plus général, hein, on va dire. À un petit truc dedans qui est susceptible de faire rebondir une pensée, un regard, etc. Je sais pas, effectivement, bon, c'est, voilà.
Mais ce qu'on peut dire aussi, et ce que les artistes qui exposent à Lieu commun reconnaissent tous, c'est que sur cette question-là, qui est vraiment le cœur, hein, quand même, de la question de l'appréciation de l'art. C'est beau, est-ce que quand c'est pas beau, est-ce que c'est quand même de l'art ou est-ce que ça me plaît quand même? C'est un endroit où on échange beaucoup, où les artistes sont présents la plupart du temps. Il y a cette possibilité. Nous, on a créé aussi un moment d'échange le samedi matin. Ça s'appelle Une heure avec, ou ça s'appelle Conversation avec l'artiste. On peut poser toutes les questions qui nous viennent comme ça. Et cet échange, ça permet des fois d'aller plus loin, plus loin que cette question de l'appréciation esthétique, c'est beau. Et quelquefois, plus loin dans, eh ben, éventuellement, j'ai passé le pas de la porte, ça je vois pas, je trouve ça très beau et tout ça, mais à écouter, à discuter, eh ben, on va trouver une autre façon de rentrer dans les choses. Et peut-être que si, même si on continue à pas la trouver très belle, cette chose-là, mais on la trouve intéressante. Je sais pas si c'est beau, mais en tout cas, c'est intéressant.
Oui, voilà. Et puis, c'est la capacité, une œuvre a la capacité d'interroger celui qui regarde. C'est-à-dire que, effectivement, je pourrais poser, on peut peut-être se poser une question qui n'a rien à voir avec ce que vous disiez avant, ni le beau, ni etc., mais qui peut faire avancer. Comment ça occupe l'espace? Ça réverbère quelque chose? Comment, des questions pratiques, ça me fait penser à quelque chose de commun, qui n'appartient pas à l'ordre de l'art, ça me fait penser à ceci, etc., etc. Tous les artistes contemporains se sont posés des questions qui ne mènent pas justement à une appréciation esthétique, on va dire, de leur œuvre, hein, mais à une réflexion sur ce qu'un travail artistique peut faire à l'intérieur de notre société, quoi. Je pense que c'est plus une chose comme ça, voilà, exprimée brièvement.
Et moi, je prends l'exemple des religieux. Il y a une œuvre qui s'appelle Religieuse et Bébé au Rhum, plutôt que Baba au Rhum. Et les religieuses, quand on regarde, on voit pas de gâteau, on voit pas de religieuse, on voit des cartons, les cartons de pâtissier qui servent à emballer ou qui servent à poser les pâtisseries. C'est dans Food Art. Et ça s'appelle religieuse. Et en fait, et c'est peint avec des couleurs acryliques très, voilà, vives, acidulées, orange, bleu, etc. Simplement, le gâteau, il est absent. Et ça va demander à celui qui regarde, mais pourquoi religieuse, pourquoi? Et il y a l'absence du gâteau, mais il y a quand même la présence de quelque chose. Voilà, le gâteau a été mangé, il ne reste plus que le carton et la couleur. Voilà. Et peut-être la religieuse, elle pourrait pas rester présente parce qu'elle va pourrir, tomber ou être mangée par d'autres. Mais le carton qui l'a emballé, il reste là, il va évoquer sa présence. Donc quelque chose de poétique aussi, quelquefois.
Mais après, peut-être que c'est précieux aussi pour des visiteurs d'entendre d'un artiste, mais voilà, de dire « mais ah, je trouve que c'est moche ce que vous faites », et de dire « mais tant mieux, j'en suis content parce que je ne veux pas faire quelque chose de beau, je m'en fiche que ce soit beau, c'est pas ce que je veux faire ». Peut-être que ça peut étonner les gens, justement, c'est l'étonnement que vous recherchiez, qu'il y ait cette rencontre et que les artistes puissent expliquer « mais c'est pas du tout mon but, en fait, c'est pas du tout ça que je veux faire ».
Oui.
Ça, c'est une action qui demande un temps fou, quoi, parce que c'est vrai que la plupart des gens qui pénètrent justement à l'intérieur de lieux communs ou dans d'autres espaces, etc., c'est ce qu'ils rentrent là parce qu'ils attendent ce que vous êtes en train d'expliquer là. Voilà. Et donc, on est là pour les déranger, pour déranger un petit peu, voilà, par toutes sortes de questions, de prise de conscience, de comparaison aussi, voilà.
Mais en même temps, comme c'est pas un lieu intimidant et que souvent il y a des gens, et ben c'est aussi un lieu de discussion. C'est un lieu de discussion et c'est un lieu où nous, des fois, il y avait des gens, ben justement, les jeunes qui passent dans la rue et qui rentrent parce qu'ils nous voient travailler, parce qu'ils voient de la lumière, parce qu'ils ont envie de voir des trucs bizarres sur les murs. Ils rentrent, ils discutent, ils ressortent, ils reviendront pas. Mais c'est vrai que c'est pas un lieu intimidant. Donc on peut aussi...
Tout à fait. On peut dire ce qu'on veut.
Oser dire, voilà. Et ce que vous dites aussi, l'artiste peut dire, moi ce que je cherche pas forcément à faire beau, mais voilà, comme ça, moi c'est cette direction là, c'est ce chemin que je trace, et puis voilà.
Oui, puis comme il y a des choses extrêmement différentes les unes des autres, mais vraiment très 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 différentes, bon, ça permet effectivement, ça ouvre la discussion, quoi. On peut ne pas faire autrement que de se dire, mais et ça, par rapport à ça, comment ça fonctionne, etc. Non pas pour mettre en exergue une œuvre plus qu'une autre, mais pour effectivement trouver des réponses à ses propres questionnements.
Mais c'est valorisant aussi pour le visiteur, en fait, de dire, mais oui, c'est votre point de vue, et vous avez le droit de ne pas aimer cette œuvre, et c'est
pas
grave.
Ah, tout à fait.
Oui, et oui. Ça ne veut pas dire que vous êtes bête ou inculte, c'est tout juste à fait. Que vous avez le droit de penser ça.
Oui.
Parce que des fois, les gens peuvent aussi avoir peur de dire ce qu'ils pensent, parce que mais on va juger que je n'y connais rien, que je suis bête, ou du coup, je préfère ne rien dire, même si je ne comprends pas l'œuvre ou que ça ne me plaît pas.
Et même d'entrer dans une galerie, il y a plein de gens qui n'osent pas parce qu'ils trouvent que ce n'est pas leur monde, qu'ils n'ont pas le niveau pour rentrer dans... C'était un phénomène courant encore. Hein. Alors là, c'est bien parce que, c'est, comme dit Anne, c'est un lieu accueillant, donc il n'y a pas de barrière, il n'y a rien. Les gens peuvent rentrer comme ils veulent et la discussion se fait couramment et d'une façon très intéressante.
Et puis, mais je crois que ça, c'est vraiment le sillon qu'on cherche à creuser. Moi, c'est même avant professionnellement. Enfin, je crois que c'est vraiment cette question fondamentale. C'est voilà, de passer du moment où alors ces trucs-là ou ça, c'est pas pour moi. Ah, et ben là, je peux y aller. Là, je peux regarder, je peux ressortir tout de suite, je peux discuter. Voilà, ce sera pas.
Et puis, je pense qu'on peut partir aussi d'expériences personnelles des gens qui rentrent dans la galerie ou des gens qui voient des œuvres d'art. C'est-à-dire leur poser des questions qui les concernent eux, leur propre vie. Je dis n'importe quoi là, mais sur votre frigidaire, est-ce que vous avez quelque chose? Qu'est-ce que c'est? Comment vous l'avez posé? Est-ce que vous avez songé à une idée précise, etc. Voilà, comment ça fonctionne? Enfin, plein de petites choses qui permettent des allers-retours. Simple, hein, extrêmement simplissime, mais qui permettent d'avancer justement dans une réflexion sur ce qui peut devenir artistique.
Et d'ailleurs, c'est intéressant ces questions aux visiteurs, et peut-être quand c'est possible et quand la pratique artistique s'y prête, de montrer aux gens, ce que vous me dites de vous, de votre vie, de vos aspirations, moi je les transforme, je les traduis comme ça dans ma pratique artistique. J'en fais un dessin, j'en fais une BD, une création sonore. Et donc là, c'est une façon aussi d'associer les gens, de leur montrer comment, quelque part, eux aussi, ils deviennent une œuvre d'art avec ce qu'ils ont donné à un artiste. Vous devez faire des choses comme ça chez Lieu commun.
Oui, on fait des choses comme ça à Lieu commun. Déjà parce que je crois que comme dans la diversité, parce que il y a de la vidéo, il y a de la sculpture, il y a de la gravure, de photographie, puis surtout des mélanges, il y a même des enluminures, des mélanges de techniques. Je pensais particulièrement à cette vidéo qui est dans l'exposition, où on montre Karine Dorn et Dominique Derieux ont filmé les nouveaux c'est même pas des commerces, c'est des distributeurs automatiques de nourriture dans les zones rurales où il n'y a plus de magasins. Et donc on voit un jeune homme sur un vélo qui va d'un endroit pour acheter des légumes, un endroit où il peut acheter du frais, un endroit où il peut acheter du pain. Je crois qu'il y a, voilà, ça parle aussi de la vie de maintenant et de comment ça change et pas simplement une réflexion éthérée de recherche esthétique qui serait un peu coupée du monde tel qu'il est et tel que on le vit tous et tel. Voilà, et toutes ces choses qu'on a tous à partager en commun et sur lesquelles les artistes donnent leur voilà leur une création à partir de la façon dont ils ont ils réagissent à ça, de façon épidermique, intellectuelle, humoristique, parce qu'il y a aussi de l'humour dans nos expos.
Heureusement. Alors je propose de faire une pause musicale et nous allons écouter Bertrand Belin et Barbara Carlotti. On se retrouve tout de suite après dans La Méridienne sur Radio Campus Tours. Bertrand Belin et Barbara Carlotti sur Radio Campus Tours. Vous écoutez toujours La Méridienne avec moi. En studio, Anne Champigny et Marilus Thomas. Nous parlons avec grand plaisir de l'association Lieux Communs. Alors, pour que nos auditeurs en profitent, hors antenne, vous disiez, mesdames, voilà, que y a-t-il eu de la censure ou de l'autocensure dans les expositions Lieux Communs ? Et vous parliez justement d'une exposition de certaines affiches. Alors, est-ce que vous voulez en dire un mot pour nos auditeurs ?
Eh bien, il y a une chose que, excusez-moi, il y a une chose dont je n'ai pas, dont on n'a pas parlé depuis que nous sommes ici, c'est qu'en fait aussi, à Lieux Communs, on développe un certain nombre de projets de collaboration et d'inscription dans des événements qui ne sont pas que des événements que nous créons nous-mêmes. Donc, à Tours, avec les studios, puis maintenant d'autres structures, depuis de nombreuses années, existe un festival Désir-Désir. Et il y a 3 ans, dans le festival Désir-Désir, nous étions associés avec les cinéma studios pour une exposition d'affiches de films pornographiques des années entre 70 et 80, qui était une collection personnelle. Et comme ces affiches n'avaient pas été forcément, ils n'avaient pas jugé était trop pertinent de les exposer dans un lieu qui recevait énormément de public, nous avions accepté le projet. On l'a trouvé même drôle et intéressant. Et donc, nous avions, comme je disais tout à l'heure, un lieu commun, c'est 23 mètres carrés d'exposition. Donc, on n'a pas pu exposer des centaines d'affiches, mais on avait fait un choix à la fois de qualité, etc. Bon, on s'était posé la question de savoir, parce qu'on est quand même, depuis quelques années, dans une période où la censure ou l'autocensure, on ne le sait pas forcément, mais ils sont là. Voilà, ou alors des réactions violentes. Qui peuvent arriver par rapport à la diffusion de certaines choses ou de certaines images. Et alors que, voilà, personne n'est obligé de rentrer dans notre galerie ou dans une salle de cinéma ou dans une salle de théâtre pour voir les choses, quand même, il se trouve des gens pour le remettre en question. Eh bien non, en fait, on avait eu des visiteurs, on avait même eu des visiteurs, et ça avait été absolument génial, qui étaient des spectateurs de ces cinémas et qui étaient très contents de pouvoir les retrouver, parce que maintenant, les salles de cinéma, pour ce cinéma-là, n'existe plus. Maintenant, c'est une diffusion individuelle. Donc, il y avait encore le côté collectif, il y avait aussi l'humour, il y avait aussi ça permettait de revenir sur une diffusion. Ça permettait aussi d'être critique par rapport à certains de ces films, hein, surtout en ce moment où on est, et heureusement, très en pointe sur la question du féminisme, mais c'était malgré tout, ça a été une expérience vraiment intéressante, une expérience partagée et une expérience où un collectionneur nous a prêté des affiches. Ça veut dire non seulement qu'il faisait confiance, mais que le lieu lui semblait tout à fait adéquat pour montrer. C'est dire que voilà, lieu commun avait quand même son image d'ouverture. Voilà, ce type de projet. Et non, on n'a pas eu de soucis. Et les affiches qui étaient précieuses, parce que certaines étaient dans la collection à un seul exemplaire, n'ont pas été endommagées.
Mais d'ailleurs, c'était une occasion de montrer aux visiteurs que peut-être ce genre de cinéma, en tout cas, c'est ce rapport à la pornographie est impossible, serait impossible aujourd'hui.
Exactement. Et surtout, cette diffusion dans l'espace public. C'est-à-dire que ces affiches, elles étaient sur les murs des cinémas. Il y avait des cinémas, rue Émile Zola, rue de Lucé, etc. Et ces affiches étaient là. Et moi, j'ai trouvé intéressante, on en avait en photographie et en dessin, par leur créativité. Voilà, la créativité autour des titres, autour de l'illustration, qui disait des choses un petit peu sur le mode comment qu'on fait, comment fait-on quand il y a une censure pour quand même montrer, exprimer et dire au spectateur lui ce qu'il va voir, quoi. Donc un petit peu quelle est la marge de liberté, et elle existe et elle est grande quand il y a de la censure, voilà.
La censure dope la création artistique.
Eh bien, qu'est-ce qu'il disait s'il n'y avait pas de règles ou de censure, il n'y aurait pas de quelque part, il n'y aurait pas de liberté de création. Voilà, ça aussi, c'est un sujet intéressant. Mais bon, quand la censure après s'exerce sur les créateurs, là, on est dans quelque chose. On aborde quelque chose de plus grave.
Marie-Lys Thomas, est-ce que vous voudriez dire un mot à nos auditeurs de votre travail d'artiste ?
Je vais essayer. Donc, je ne fais pas d'image au sens traditionnel du mot, mais j'utilise des tas de matériaux différents. Enfin, des tas, non, c'est assez restreint finalement. Des matériaux qui sont dont la caractéristique est d'être relativement réfléchissant ou jouant fortement avec la lumière. Et ces matériaux me permettent de construire des des petits espaces qui sont de type abstrait, on va dire, qui ne représentent pas forcément quelque chose, mais qui jouent avec le lieu en modifiant la lumière, en modifiant la perception, en modifiant la façon d'être et de se déplacer à l'intérieur. Ben, c'est très large ce que je vous dis. Pour vous expliquer mieux, je recherche vraiment à ce qu'il y ait une espèce... Je joue avec les matériaux en les superposant beaucoup, en les encastrant les uns dans les autres, etc. Je cherche à perturber la façon dont on voit le monde extérieur avec les petites choses que je fais, les grandes choses que je fais. J'utilise par exemple aussi des papiers de soie qui sont tout à fait qui sont travaillés par brûlure, si vous voulez, et qui déterminent des cheminements de lumière à l'intérieur d'un espace donné, ce qui fait qu'on le perçoit complètement différemment. Bon, et on peut le percevoir de manière, alors là, esthétique, c'est-à-dire qu'on peut avoir une impression, effectivement, d'être emporté dans un ailleurs qui n'est pas l'ailleurs quotidien, l'ailleurs déterminé, l'ailleurs qu'on est obligé d'emprunter, etc.
Et moi, j'aimerais bien, parce que quand même, notre expo, elle s'appelle Food Art et tu y participes. Et d'emblée, tu as dit que tu participais. Moi, j'aimerais bien que tu nous parles de crépines et de sel.
Voilà.
Pour illustrer ton propos.
Voilà. Alors, Food Art, bon, l'idée, donc, c'était food, comme l'a très, très bien expliqué Anne, la nourriture, etc. Donc, moi, je m'étais dirigée d'abord vers le sel. Et puis après, j'ai de bonnes relations avec mon charcutier. et qui fait des crépines de porc extraordinaires. Des crépines. Ça s'appelle là, voilà. Là, donc je lui ai demandé de la crépine. Je me suis dit, tiens, je vais essayer. Et pourquoi la crépine? Parce qu'effectivement, c'est un matériau extraordinaire qui est qui se dilate, qui se rétracte, etc. Et qui est transparent et qui forme un réseau. Le réseau m'intéresse aussi beaucoup, un réseau de vénules, etc. Voilà. Donc je suis partie de ce matériau-là pour inventer des mondes personnels qui sont parfois inquiétants, hein, qui évoquent une finitude ou qui sont au contraire très ludique, qui est très humoristique, bon, et qui met en scène une espèce de relation entre des petites choses qu'ils font voir autrement. Enfin, c'est difficile à expliquer. Alors, Anne va reprendre.
Et le titre de ta série, c'est
C'est taquiner la crépine et forcer sur le sel. Voilà.
Alors, c'est un ensemble de tableaux. Il y a des petites maisons.
Alors, je travaille aussi depuis un certain temps la photographie. Donc là, j'ai fait des photographies de cette fameuse matière. Voilà. Et j'ai utilisé cette matière pour créer des micro-mondes, en fait, en quelque sorte. C'est-à-dire que les photographies, la façon dont elles étaient, dont la crépine apparaissait dans une lumière, etc., je les ai adaptées à ce que je cherche à faire habituellement. Et donc, j'ai recréé des mondes en y ajoutant un certain nombre d'éléments. Voilà. Et c'est souvent humoristique, bon, plus que... Je ne sais pas. Il y a, les titres sont divers aussi. Hein. J'en ai nommé une parce que je travaille aussi en faisant beaucoup de photos de mes installations quand elles ne sont pas terminées. Donc c'est un matériau premier. Et le matériau premier lors de cette exposition, c'était des vagues. J'avais trouvé dans un magasin de plexi, enfin des supports qui faisaient des vagues, etc. Et j'avais commencé à jouer avec du sel et ce genre de matériaux. Et puis, ça n'avançait pas, c'était assez bougé. Et donc j'ai pris une photo. Et la photo est devenue un lieu où, effectivement, j'ai pu installer des petites maisons, etc. Et qui recréait un monde assez fantastique, assez fabuleux, proche peut-être du cinéma d'animation ou des choses comme ça, et que j'ai appelé, ça y est, j'ai un trou de mémoire.
The Waves.
Oui, voilà, ça m'a fait penser fortement à Virginia Woolf, allez savoir pourquoi, et donc j'ai appelé ça Waves, roule Virginia, roule, voilà. Donc les titres aussi ont une grande importance dans la réalisation de certains de mes travaux.
Ça fait penser, alors je sais pas quel est le nom de un jouet optique en fait pour les enfants. En fait, c'est comme des petites jumelles avec un disque en fait qui tourne. Et on voit À chaque clic, on a une nouvelle image qui apparaît. Ça fait un peu penser à ça, votre série de...
C'est des univers particuliers, en fait, c'est des univers particuliers. Mais je travaille aussi à grande échelle. J'ai fait une installation dans une église de Drôme, uniquement avec des plexis. Et le plexi me servait justement à créer un espace intermédiaire entre l'espace lumineux qui était créé dans la chapelle, l'architecture, les murs et tout ce que le visiteur peut avoir dans sa tête quand il déambule à l'intérieur de cette église-là. C'est une recherche c'est être un ailleurs. C'est un petit peu comme chez les Japonais, si vous voulez, l'utilisation du vide, en fait, qui parcourt généralement les estampes, etc., et qui vous permettent une espèce de dilatation de la pensée, où vous voyez d'autres choses que ce que vous voyez qui sont en face de vous. Voilà, je prends ça comme ça.
Une réalité augmentée non numérique.
Voilà, non numérique. J'en suis... Non pas que il y ait du dédain de ma part par rapport à ce genre de pratique, mais je ne sais pas faire. Mais un jour, ça viendra.
Non, mais c'est intéressant de se dire si la réalité augmentée, parce que peut-être que pour les auditeurs, c'est forcément lié au numérique, aux créations numériques. Peut-être que c'est forcément le cube à Montreuil, mais non, ça peut être plein d'autres choses.
Tout à fait.
Voilà, et de dire qu'avec du papier de soie, de la crépinette, on peut inventer des mondes. je trouve ça vraiment fascinant, c'est chouette.
Mais ce que vous dites, ça me fait penser, je crois que c'est Pilou qui disait ça, que l'art, c'est ce qui rend la vie plus grande que l'art. Et c'est vraiment ce
un
que vous venez de dire.
Mm-hmm. Ah bah, je suis comme Monsieur Jourdain, alors. Je dis des choses sans le savoir. Est-ce qu'on peut rappeler peut-être les autres artistes que l'on aura le plaisir de voir dans cette exposition ?
Alors, je ne sais pas s'il faut... Il y a 24 noms.
Ah oui, bon, bah, c'est pas grave, ça fait une petite liste.
Oui, voilà. Par exemple, il y a deux artistes cette année, il y a des hasards extraordinaires qui se sont focalisés, qui ont chacun leur interprétation du Déjeuner sur l'herbe d'Edouard Manet, mais alors qu'ils n'ont rien à voir. L'une, elle fait des tâches sur une serviette de table, et puis l'autre a fait des petits tableaux qui s'appellent Les quatre saisons du Déjeuner sur l'herbe. Nous avons quelqu'un qui s'appelle Charlotte Courcoul et qui travaille avec l'idée des betteraves, la couleur de la betterave et des peaux de clémentine quand elles sont sèches. Yves Deloul, c'est l'artiste des religieuses. Des religieuses qui ont été mangées, des emballages de gâteaux. Une vidéo aussi de deux vidéastes qui sont aussi dans les 20 ans de...
Sans canal fixe,
puisque nous avons des liens et des collaborations, des photos, plusieurs photographes, et très très différentes, on pourrait dire, photographie, nourriture, donc nature morte, effectivement des photos en noir et blanc de Jean-Pierre Dubois, en couleur très retravaillée de Pierre Fuentes, des fonds de tasses de café de Marlène Guichard, qui est aussi chanteuse, et qui photographie sa très précieuse tasse, le fond de sa très précieuse tasse de café le matin. Voilà. Julie Mancillon, elle crée des parures, elle est joaillière, elle est à Chinon, et elle a, de façon très précieuse, elle a installé une parure qui s'appelle la parure noisette. Et ce sont des très belles boucles d'oreilles noisettes qui peuvent être portées avec les plus belles tenues du réveillon. Bojana Nicevic est une artiste qui travaille le feutre. Et pour cette exposition, qui s'appelle quand même Food Art, elle a fait pousser, parce qu'il se développe tout seul, du sel d'Alain. Sur du feutre, elle en a fait des petites sculptures blanches, brillantes sur du grillage. Alors Philippe Untersteller, qui est un artiste qui a une longue expérience, qui s'est même occupé d'une galerie qui s'appelait Arcuterie à Poitiers, lui a créé un mouvement internationalement connu, qui s'appelle le raviolisme. Donc ces œuvres, ce sont des raviolis, déclinaisons de raviolis d'artistes, des raviolis, il y a même une toute nouvelle série des raviolis jaunes et de rayures grises, en fait, de raviolis en gilet jaune. Mais tout ce panneau d'exposition, ce sont des raviolis. On a aussi l'histoire de la galerie. Elle a commencé beaucoup avec la gravure, donc des artistes qui pratiquent la gravure, comme Viviane Gerbeau et Françoise Roulier. Donc la gravure, cette fois-ci à la pointe sèche sur plexi, donc un travail de dessin extrêmement précis. Lyd Violo est sculpteur, elle est venue avec des tasses, assiettes, et puis même une assiette de poisson. Et c'est drôle parce que le poisson est très présent cette année. Alain Quesnel, il a accroché à des hameçons sur des fils suspendus. Et il a accroché à des hameçons, non pas des maquereaux ou des harengs ou des sardines, mais une série de dessins de maquereaux qu'il a imprimés sur des sacs Air France, les sacs qu'on donne avant de monter dans l'avion. Donc, vous imaginez l'usage. Michèle Minière, elle pratique la céramique. Donc, ses sculptures s'appellent « Les carottes sont cuites ». Donc, ce sont des petites carottes très, très sexy et très impertinentes, des petits nus féminins, mais en carottes qui discutent sur un banc. Voilà, je pense que, oui, Sophie Malaisé fait aussi de la gravure, je pense. Et j'ai parlé aussi des techniques d'un enlumineur, Pierre-Yves Joly, fait vraiment des enluminures médiévales. Et chacune de ces enluminures, avec humour, avec... vraiment à la tempéra, des tout petits formats aux couleurs très lumineuses, voilà, ils sont présents dans l'exposition. Il a même apporté, parce que ces petites bouchées, on a eu un vernissage de dégustation du Hippocras, donc qui est un vin d'épices. Et puis voilà, donc j'ai parlé de Zazou, ben j'ai fait le tour. Babette Hausse, elle est metteuse en scène, elle a beaucoup travaillé dans le cinéma. Elle est venue avec toute une petite famille qui s'appelle Sésame, ouvre-moi, donc dans des petits pots de sésame et des petits personnages qui essayent de sortir de pots transparents. Voilà. Et ben si, quand même, on est arrivé à citer les 24 personnes qui sont présentes dans ces 23 mètres carrés.
Voilà, donc ces artistes, on peut les voir du 6, c'est passé, mais jusqu'au 15 décembre, voilà. Donc elle est ouverte quand, cette galerie ?
Alors, maintenant, plus que 2 jours pour voir les œuvres. Elle sera ouverte samedi et dimanche de 14h à 19h. Et voilà, on ne peut qu'inviter à venir déguster visuellement tout ce qui est là.
Alors, quels autres projets sont en cours pour l'année 2020 à venir ?
Alors, pour l'année qui vient, pour le début de l'année, on renoue avec, parce que c'est des rendez-vous importants, on renoue avec le Printemps des Poètes, donc avec une exposition collective cette année. Le thème du Printemps des Poètes, c'est le courage, donc peut-être, voilà, on ne sait pas encore. Et la rue est en chantier, donc je crois que ce sera autour du lit de chantier, ou bien la transgression aussi, on sait que c'est un courage, donc est-ce que ce sera autour de la transgression ou du chantier? Mais voilà, on réunira des artistes, et on veut retrouver... au mois de mars, à partir du 8 mars, donc la journée internationale des droits des femmes, on invite des femmes, on veut renouer avec la gravure, parce que c'est vraiment un domaine important et qui correspond aussi au patrimoine génétique de la galerie. On a commencé avec une exposition d'une graveuse, et donc elle s'appelle Estelle Lacombe et Billy Tisfarini, elles viennent de Montpellier, donc pour dire aussi qu'à lieu commun, on expose des artistes locaux, mais on tient aussi à inviter des artistes qui viennent pas forcément de Touraine ou de la région, à laquelle on va associer probablement, et ce sera sa deuxième exposition, une femme qui pratique aussi la céramique et des petites têtes féminines, voilà, en terre, en porcelaine. Une exposition de sculpture aussi, quelqu'un qui n'a pas été montré depuis très longtemps et qui travaille, lui, les matériaux très, 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 très contemporains, les plastiques, les résines et les trucs un peu bizarres, qui s'appelle Avelino Sanchez. Voilà. On va associer aussi au début du mois d'avril un artiste très connu et puis une journaliste. artiste connu aussi, mais quelqu'un qui est, voilà, une expérience et une expérience moins longue avec Dominique Spiesser et Camille Lebec. Donc là, un duo dessiné je crois qu'ils ont envie d'investir toute la galerie, y compris les murs, les vitres et peut-être la rue.
Merci. Alors peut-être qu'on peut retrouver toutes ces informations sur les internets.
Voilà. Alors, notre site est en réflexion parce qu'on va passer d'un fournisseur à un autre. Il est prêt, mais on peut déjà nous retrouver sur la page Facebook de Lieux communs. Lieux communs, en un seul mot, soit Galerie Lieux communs, soit Lieux communs, LYEUX, bien sûr. Hein, il s'agit beaucoup des yeux et communs, voilà, parce que c'est quelque chose que nous avons tous en commun.
Est-ce que vous avez un site, Marilus Thomas, ou une page Facebook ?
J'ai une page Facebook, voilà, et puis j'ai un site marilustoma.com.
Voilà, donc on peut aller donner de l'œil
voilà,
à toutes ces choses.
Voilà, c'est plus facile de voir. une toute petite chose, ce qui est un grand plaisir de la Galerie Lieux communs aussi, c'est le montage, voilà. Parce que c'est mettre ensemble des genres totalement différents, c'est un véritable challenge et c'est un véritable plaisir, vraiment.
Bon, alors allez, précipitez-vous à la Galerie Lieux communs, chers auditeurs. Et juste une question, Anne Champigny, et vous alors, quelle est votre pratique artistique ?
Eh bien moi, on va dire que ma pratique artistique, je ne sais pas, elle est peut-être en sommeil, mais pour l'instant, ma pratique artistique, c'est justement de mettre du lien entre toutes ces choses artistiques et d'aller et de permettre de se diffuser, de se montrer et puis de vivre.
Voilà, mais c'est un art à part entière aussi. Grand merci à vous, mesdames, Marilus Thomas, Anne Champigny, d'être venues dans la Méridienne.
Merci infiniment,
merci.
Mélissa.
Merci, Mélissa.
Et on se quitte en écoutant à nouveau Barbara Carlotti et Bertrand Belin. Bonne journée à tous à l'écoute de Radio Campus Tours, bien sûr.
Planche, cou, couteau,
bijoux,
bouteille, sous, bibelot de Lourdes.
Marée haute,
arithmétique,
Noël,
Père Noël,
tabac,
obus,
un passant qui pue,
la nuit, cette fois derrière le stade où tu as fait ta danse d'indien pour lui, pour qu'il pleuve sur lui. Notre-Dame en feu qui rougeoie dans la nuit la vache,
le poing d'un mec sous, écrasé sur une bouche,
carton,
citron,
étron,
pinson,
coton,
dindon,
houlon,
gazon,
avion,
majesté,
vitesse du son. Cette fois derrière le stade où tu as fait ta danse indien pour lui,
pour qu'il pleuve sur lui.
Tout s'efface lentement, tout lentement, tout finit comme un os, blanc comme un os, le temps est si doux. Toi,
bruit,
Barbara,
la foutue manie qu'il a de traîner son passé d'art,
Kadhafi campant dans les jardins de l'Elysée, moi,
dégustant mon sorbet cassis devant la télé,
nu,
clope,
rideau,
paradis,
cette fois derrière le stade où tu as fait ta danse d'indien pour lui,
ça cueillait des mains.
Le sexe pointu du chien des voisins qui nous faisait machin,
l'arrivée magique des kiwis,
le mariage inattendu de Romola de Pulski
avec Nijinsky,
le journal local,
le journal familial,
le savon doux, tout
tes commentaires et l'argent sur la terre qui tourne
entre ta fait tout. S'efface lentement, tout lentement, tout finit comme un os, blanc comme un os.
fâche lentement tout. Donne-moi ta main, allons descendre, sentir ce jasmin en bas des marches. Le temps est si doux. Comme un os, blanc comme un os.